puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scap 107.
Comme dans votre jardin, désherber dans les champs doit être régulier. Et en agriculture biologique, le désherbage se fait manuellement, ce qui demande une main-d'œuvre importante. C'est pour cette raison que les frères Delmotte, agriculteurs bio à Arleux-en-Goële, entre Arras et Lens, ont fait appel au GEC3A, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification agricole et agroalimentaire. Rencontre avec Stéphane et Benoît Delmotte au parcours atypique.
Alors moi je suis Stéphane Delmotte, on a repris la ferme avec mon frère qui est Benoît juste à côté de moi. À la radio c'est pas très évident mais je vous le dis. Donc on a respectivement un peu plus de 30 et 40 ans. On a repris la ferme, l'exploitation familiale en étant double actif après avoir mené des études qui sont pas du tout dans le milieu agricole parce qu'on voulait pas laisser partir la ferme. Voilà. Et puis on avait un projet en tête, c'était de convertir en bio à l'époque et qu'on a jusqu'ici mené à terme. Donc on a actuellement une ferme de 85 hectares en production polyculture de légumes en agriculture biologique.
Et vous, qui êtes-vous en quelques mots ?
Donc Benoît Delmotte, je suis l'associé de Stéphane, dont son frère et son associé aussi. On a repris en 2016 et je crois que j'ai tout dit.
Vous avez un parcours atypique, hein, vous passez de la médecine, c'est ça, à la ferme ?
Bah oui.
Donc pourquoi ce choix ?
Plusieurs raisons. Il y a l'aspect familial. Enfin, moi, j'ai grandi dans la ferme, hein, donc j'ai baigné dedans. Et ça reste mon enfance et mon éducation. La médecine me plaît. Je ne m'ennuie pas particulièrement, mais j'avais envie de faire autre chose, un travail qui était un petit peu plus à l'air libre. Donc, pour l'instant, j'arrive à concilier les deux. Et puis après, l'opportunité de reprendre la ferme nous permettait aussi de travailler différemment de ce qui avait été fait jusqu'à présent, qui correspondait plus à mes attentes politique et de conception de l'agriculture.
Et donc là, nous sommes au milieu d'un de vos champs, pas loin du bassin minier, on voit les terriers pas loin. Qu'est-ce qu'il y a comme culture ici ? Parce qu'on peut avoir du mal à reconnaître. Et qu'est-ce que c'est ici que vous cultivez ?
Donc c'est de la chicorée à café.
Et donc, quelle destination, quel partenaire vendait ça ?
On travaille avec Nora Bio et Leroux, en fait. Donc, c'est un contrat tripartite entre les agriculteurs, Nora Bio et Leroux, et Biocop aussi, ouais. Donc, c'est destiné à la chicorée à café soluble.
Et puis là, il y a une session de désherbage avec pas mal de personnes, là, désherbage à la binette. Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans un champ comme celui-ci ?
Couper tout ce qui n'est pas la chicorée. L'importance du désherbage, c'est comme dans n'importe quelle culture, dans des champs qu'on peut voir autour de nous quand on se balade dans la plaine, c'est qu'en fait, là, on fait une intervention qui est capitale, qui permet à la plante cultivée de pousser sans être en concurrence avec d'autres adventices. Alors, ce que nous, on appelle adventices en agriculture biologique, c'est ce que les autres appellent des mauvaises herbes. Si on ne le fait pas à ce stade-là, la culture est complètement envahie et elle ne donnera strictement rien. Ce qui fait qu'on a, un besoin alors en bio important en main-d'œuvre, mais surtout lié à la culture, capacité forte d'intervention sur un temps très court, qui permet le temps de pousse intensif de la plante, qui ne doit pas être contrarié par d'autres plantes qui lui feront concurrence.
Parce que là, vous êtes en agriculture biologique, et c'est pour ça que du coup, ça doit se faire manuellement avec pas mal de personnes.
Oui, l'intervention manuelle, elle vient en complément d'autres interventions de désherbage mécanique. L'agriculture biologique n'a rien inventé, hein. C'était le conventionnel d'avant le chimique, c'est-à-dire que c'est une culture qui est dite en rang, c'est-à-dire que ça se met en ligne. Tout ce qui est sur la ligne, c'est la culture. On fait une première intervention avec ce qu'on appelle, ce que les vieux agriculteurs appelaient une sarcleuse ou une bineuse, c'est-à-dire que c'est un outil qui désherbe tout ce qui est entre les lignes de culture. Le désherbage manuel, c'est un rattrapage qui se fait tout ce qui est resté après le binage sur le rang de la culture.
Et donc il faut pas mal de personnes à chaque fois, faire appel à des personnes pour faire ce travail.
Alors oui, et plus la culture est implantée tôt, plus elle est en concurrence avec des attentistes qui sont nombreux, et plus le besoin de main-d'œuvre est important et le temps de désherbage est important. Par exemple, sur une culture comme ça, on estime qu'on est entre 70 et une centaine d'heures, voire plus, en fonction des conditions de désherbage manuel. Sur des cultures comme de l'oignon ou de la carotte, on peut monter jusqu'à 200, 300, voire 400 heures de désherbage manuel par hectare, toujours.
Et là, on voit des zones d'exploitation à côté. La terre est grappillée par notamment la logistique aujourd'hui, des choses comme ça.
Alors, on est dans une région où spécifiquement la pression sur le foncier agricole est extrêmement importante. C'est probablement une des régions dans laquelle elle est la plus forte en France. On peut incriminer effectivement les zones d'activité, quelles qu'elles soient, industrielles, commerciales ou autres, mais il y a aussi une pression foncière qui se fait par le grignotage urbain, les infrastructures de réseaux routiers. On doit faire face à ça. Nous, on a eu la chance de reprendre une ferme, donc ça s'appelle Encadre familial. C'est-à-dire qu'on a repris la ferme que notre famille cultivait depuis déjà plusieurs générations. Mais pour quelqu'un qui voudrait s'installer en hors cadre familial, c'est quasiment mission impossible parce que le prix du foncier, de la reprise, est tellement important lié au fait de la pression foncière que ça rend les choses quasiment impossibles, à moins d'être rentier, héritier, millionnaire, avoir une vieille tante qui, dans son matelas, a quelques lingots d'or. C'est autrement très compliqué.
David fait partie du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification agricole et agroalimentaire GEC3A et il était dans un des champs des frères Delmotte pour une opération de désherbage.
Je suis en train de désherber les chicorées, c'est des jeunes plants et c'est pour éviter que les mauvaises herbes prennent le dessus sur la culture.
Il y a beaucoup de choses à faire, vous faites combien d'heures alors là ?
Tout dépend des champs, tout dépend des cultures, après les journées ça varie, hein, ça varie selon le boulot. Ça peut être des journées de 7h comme des journées de 9h.
Vous faites toute exploitation, tout type de plantes ?
Un peu tout, oui. Bon, principalement, nous, dans le coin, c'est plus de la betterave, de la chicorée, il y a de l'avoine, du blé. Enfin, c'est principalement ce qu'on fait.
Et donc, pour faire ce travail, on parlait là de précision, vous avez une formation spécifique ?
J'ai passé une formation récemment pour avoir le diplôme de qualification.
Qu'est-ce que c'est comme formation ?
C'est une formation qui nous permet de mieux reconnaître les végétaux. Surtout quand on débute dans le métier, on ne les connaît pas forcément. Donc des fois, on désherbe, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est mieux quand même de les connaître.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire ça, ce métier-là ?
Avant, j'étais dans l'espace vert. Donc j'ai voulu rester en contact avec la nature et je suis parti dans l'agriculture.
Il y a beaucoup de travail finalement, vous avez toujours des choses, des champs à faire.
Il y a moins de travail l'hiver, donc on en fait beaucoup l'été et c'est sûr que l'hiver c'est moins évident.
Là, la pleine saison c'est en ce moment, c'est ça, c'est là où il y a le plus de choses à faire finalement.
C'est toujours entre mai, on va dire mai, jusqu'à novembre. La saison des pommes de terre démarre à partir du mois d'août. Donc ouais, il y a du travail entre mai et novembre, principalement.
Donc c'est un métier assez physique, il faut faire attention aussi peut-être quelquefois à ne pas se faire mal ou avoir les bons gestes, on va dire.
Voilà, exactement. Bon après c'est une question d'habitude aussi. Au début c'est sûr qu'on a mal, après bon on s'habitue à force. À force de travailler, on prend les bonnes positions et après ça va.
Donc vous, il y a aussi ce, finalement être là en pleine nature, mais ce contact avec la terre aussi, c'est ça aussi que vous aimez ?
Ça aussi, ouais. Bon, puis ça permet de... Il y a une meilleure ambiance, on est à l'extérieur, disons qu'on peut discuter, tout ça, c'est pas du tout pareil qu'à l'usine, j'ai travaillé en usine, ça n'a pas duré longtemps.
Ah oui, pourquoi ?
C'est pas la même ambiance qu'à l'usine. Hein. L'usine, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit, il y a le bruit des machines. C'est des espaces confinés, et... c'est pas la même chose.
De tout temps, vous faites justement ça, ce désherbage ou autre, vraiment c'est quand il pleut pas, comment ça se passe ?
Le problème quand il pleut, c'est que s'il pleut trop, on ne peut pas le faire, parce que ça colle, on démolit tout plutôt qu'autre chose. Donc si la pluie tombe faiblement, ça va, après on est obligé d'arrêter.
Alors vous savez bien en avance ce qu'il y a à faire, ou alors ça dépend aussi de la météo, ou là on vous appelle assez vite pour faire comme là des actions de désherbage ?
On nous appelle assez vite, oui.
Pour être disponible donc.
Faut être disponible.
Et vous faites que ça de toute façon, c'est ça aujourd'hui?
Je fais que ça en ce moment, après ça va être en fin de saison, enfin saison de pommes de terre, ça va être de l'arrachage et après du tri.
Manuel aussi, donc du coup manuel. Ça c'est les machines ne peuvent pas faire en fait.
Non, il n'y a pas encore les machines pour trier les pommes de terre, ça va exister. Normalement ils sont en train de concevoir des machines optiques, trieuses optiques, mais c'est pas encore au point.
Parce que là, on est dans un champ aussi d'agriculture biologique et finalement, il faut aussi la main-d'œuvre et puis que vous soyez là parce que c'est l'idée peut-être, agriculture biologique, d'avoir plus de travail finalement.
Oui, c'est sûr. Au moins, ça permet de créer de l'emploi et puis ça permet de travailler proprement sans polluer les nappes phréatiques.
Vous êtes sensible à ça aussi?
Bah ouais, surtout quand on travaille en extérieur, on devient un peu écolo. Mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça permet de créer de l'emploi. C'est le principal.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe-Sensé.
Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur. De pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. Trier les lentilles à côté du puits envolé, avec le cou déjà levé. Y'aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
C'était Oiseau et les jeunes agriculteurs de Haute-Loire avec la chanson « Agriculteur » qui fait écho au travail des frères Delmotte en agriculture biologique à Arleux-en-Goële, entre Arras et Lens, dans la communauté de communes aux artistes Marquion. Dans leur champ de chicorée bio, nous avons aussi rencontré Nadège Durimel, responsable du GEC 3A, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification agricole et agroalimentaire dans le Pas-de-Calais.
Ça veut dire qu'en fait, on recrute des salariés que l'on forme par le biais de contrats d'alternance en moyenne de 18 mois. Et ces salariés, on les met à disposition auprès de nos adhérents, qui sont majoritairement des exploitants agricoles.
De quel territoire sont ces exploitants?
Alors, on rayonne sur l'ensemble du Pas-de-Calais. Donc, ça, historiquement, on a démarré sur le territoire de Bapaume-Bertincourt. On est ensuite arrivé sur aux Artis-Marquion, le territoire arrageois, le Saint-Paulois, jusqu'à Dèvres-Samé et Boulogne. On va un petit peu sur le Cambrésis, le Douaisis et l'intégralité de la Somme.
Ce sont ensuite des formations pour ces gens qui font du travail saisonnier. Comment ça se passe ensuite dans l'accompagnement?
Alors en fait, chez nous, il y a deux groupements d'employeurs. Il y a le groupement d'employeurs classique, le GE, et le GEC, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Le GE nous permet en fait de recruter des salariés saisonniers. Donc il y a des personnes qui viennent chez nous qui n'ont pas forcément un projet en agricole, qui viennent juste chercher un job saisonnier et qui repartent. Mais d'autres aussi viennent pour un job saisonnier et finalement restent parce qu'ils découvrent le monde agricole, se découvrent un intérêt et souhaitent être formés. Donc on les rentre dans ce cas-là en parcours GEC. Pour en moyenne 18 mois pour les former, les monter en compétences, dans l'idée de les fidéliser, puisqu'aujourd'hui on a 10 CDI permanents issus de parcours GEC réussis.
Alors quels travaux sont nécessaires dans les champs? Quels sont les principaux métiers, on va dire, pour les emplois saisonniers?
Alors là, on parlait par exemple d'artistes marquions, donc on est effectivement sur du désherbage manuel à la binette, ça peut être aussi du désherbage sur plateau de désherbage. On est aussi actuellement en récolte, on a encore quelques récoltes de fraises, d'asperges, on est en éclaircissage dans les vergers, donc ça c'est pour les ouvriers légumes de plein champ. Après on recrute aussi des chauffeurs de tracteurs, des ouvriers légumes de plein champ, des agents de conditionnement, des mécaniciens agricoles, des secrétaires comptables, enfin tous les métiers qui peuvent graviter à un moment donné dans le secteur agricole et aussi en agroalimentaire, puisqu'aujourd'hui on a une quinzaine de salariés en conditionnement de légumes.
Alors là on est sur une parcelle où c'est agriculture biologique aussi, c'est pour ça qu'il faut un désherbage manuel, ça demande du coup plus de personnes pour travailler dans le champ.
Tout à fait. En fait, l'agriculture biologique demande beaucoup plus de main-d'œuvre. On a d'ailleurs un ratio qui nous dit que 22 hectares en agriculture conventionnelle génèrent un emploi, alors qu'en agriculture biologique, c'est 8 hectares pour un emploi.
Ensuite, il y a une qualification auprès de ces personnes, c'est ça? Ce sont des personnes qui reviennent chaque année ensuite avec des compétences?
Voilà, l'idée c'est de fidéliser. Le diagnostic de départ c'était on a besoin de salariés, on a besoin de salariés qualifiés et on souhaite fidéliser la main-d'œuvre, notamment la main-d'œuvre saisonnière. Donc le GEC répond à la montée en compétences en formant les salariés et le GE en fait par la complémentarité, en fait un même salarié peut aller travailler sur 10-15 exploitations agricoles différentes mais complémentaires et ce qui permet en fait de donner un travail sur toute l'année quasiment à un salarié.
Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs, d'exploitants, ils font appel à vous?
Alors oui, enfin, on a démarré avec 8 exploitants agricoles en 2013. On a clôturé 2018 avec plus de 140 exploitants agricoles adhérents.
Et c'est exponentiel, il y a de plus en plus, ou ça se stabilise, comment ça se passe?
On est vraiment sur une phase ascendante très 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 forte. On a fait notre assemblée générale sur le groupement d'employeurs, c'était plus 126% entre 2017 et 2018. Donc vous voyez que c'est vraiment exponentiel.
Avec pourtant moins d'agriculteurs finalement, mais plus de personnes dans les champs, c'est ça?
Les conversions bio demandent de la main-d'œuvre, les exploitants agricoles aussi évoluent. Quand les pousses travaillent, on a envie aussi que l'exploitant agricole se libère du temps, donc ça veut dire recruter un salarié, essayer de déléguer certaines tâches.
Alors c'est pour tout type de culture, j'imagine, ensuite?
Ah oui, tout à fait, on fait de la grande culture, on fait du légume de plein champ, on fait les maraîchers, les horticulteurs, les entreprises de travaux agricoles, les CUMA, voilà, tout ce qui gravite dans le monde agricole et qui requiert de la main d'œuvre.
Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualification au départ pour intégrer ensuite la formation et puis pouvoir travailler dans les champs?
Alors le premier critère c'est la motivation, il faut être motivé à travailler. Ce ne sont pas toujours des travaux faciles, là on le voit, les conditions climatiques sont agréables, mais parfois il fait chaud, il fait trop chaud, il fait froid, le terrain est boueux. Donc le premier critère c'est la motivation, ensuite c'est de venir nous rencontrer, et puis nous on saura aiguiller en disant effectivement on est plutôt sur un projet dans un premier temps d'ouvrier légumes de plein champ ou de chauffeur de tracteur, en fonction de l'appétence et en fonction du premier niveau de compétence.
Et puis, en fonction de la météo, est-ce qu'il faut des personnes qui soient disponibles assez rapidement? Par exemple, s'il y a un désherbage à faire assez rapide après des conditions où ça a poussé très vite, peut-être?
On est dans l'agricole, donc on est dans le réel. On anticipe, on demande aux agriculteurs d'anticiper leurs besoins de manœuvre, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous dire, effectivement, à telle période, on va avoir des besoins, mais on ne sait pas le jour précis, immédiatement, parce que c'est fonction, effectivement, de la météo, de la façon dont le sol, deux champs semés au même moment, ne vont pas forcément réagir de la même façon. Donc il nous faut, effectivement, de la réactivité et de la disponibilité.
Beaucoup d'agriculteurs, mais il y a beaucoup de cultures, même là, parce qu'on parlait de l'agriculture bio, qui se convertissent, finalement. Vous sentez une tendance?
Oui, il y a une tendance à la conversion. Après, elle n'est pas non plus très très importante, mais elle est progressive et en même temps, heureusement, si aujourd'hui toutes les exploitations avaient une conversion en bio, le problème de la main-d'œuvre serait vraiment très très compliqué. C'est déjà très tendu, mais là, on serait vraiment en grande grande difficulté.
Il manque de main-d'œuvre de temps en temps, enfin de personnes?
Tout le temps. tout le temps. On est tout le temps en recrutement parce que les métiers sont méconnus, donc il faut faire vraiment un travail de promotion des métiers agricoles. Les métiers agricoles sont porteurs, l'agriculture recrute et forme, donc c'est vraiment un travail au quotidien de promouvoir ces métiers.
Et puis d'image, j'imagine, il y a peut-être quelquefois une mauvaise image véhiculée du travail manuel dans les champs.
Oui, il y a une image, il y a une étiquette qui est collée sur les métiers agricoles. Après, ce qui est vraiment méconnu, c'est vraiment les opportunités d'emploi. On pense qu'un agricole, soit on est chauffeur de tracteur, soit on est vacher, qu'il n'y a pas d'autres métiers, alors qu'on arrive sur, par exemple, les ouvriers légumes de plein champ, en mettant encore une fois une succession de productions les unes derrière les autres à travailler toute l'année.
Comment on fait pour vous contacter? Vous êtes situé où pour les auditeurs intéressés?
Alors, on est basé à la Cité de l'Agriculture à Saint-Laurent-Blangy, avenue Roger Salengros. On peut nous contacter directement donc à la Cité de l'Agriculture en se présentant, en envoyant son CV par mail à jec3a@gmail.com. Il y a un site internet et également une page Facebook et un 06 48 95 95 98.
Aussi présent dans la parcelle des frères Delmotte en agriculture biologique, Jean-François Lemaire, vice-président au développement rural et agricole de la communauté de communes aux artistes Marquion.
Nous sommes venus visiter cette exploitation ainsi que les employés qui sont en partie du GEC. Et nous avons donc décidé dès 2015 d'être partenaire du GEC 3A. En donnant des subventions régulièrement et en demandant évidemment chaque année le nombre d'adhérents sur le secteur des artistes Marquion. Donc à ce jour, sur notre secteur, il y a 8 adhérents et 7 salariés qui font partie du GEC.
Et là, en plus, on est sur une parcelle où c'est agriculture biologique, c'est ça, c'est l'idée pour l'agriculteur de favoriser l'agriculture bio.
Bien sûr, donc on a affaire à de nouvelles générations qui exploitent de manière bio de plus en plus, notamment chez M. Delmotte, et on est favorable à ces expériences qui sont liées aux agriculteurs actuels, notamment des nouvelles générations.
Parce que j'imagine aux artistes marquants, la communauté de communes est attentive à ce qui se passe sur ce territoire qui est très rural aussi, finalement, aux artistes marquants. Donc il y a comme ça des choses qui se passent, qui évoluent.
Bien sûr. Donc nous avons également un marché du terroir où certains producteurs bio sont présents tous les ans. Donc on est sollicité par ces agriculteurs bio tous les ans. Et puis on a de nombreux visiteurs qui achètent parce que c'est quand même dans l'air du temps.
On parle justement d'un marché là, une fois par an. Il y a finalement le retour, l'envie du retour du marché aussi dans les villages du samedi matin, ou en tout cas d'un jour dans la semaine, où juste un producteur qui vient un soir dans la semaine, il y a ce retour là finalement.
Ah oui, ça existe dans certaines communes, je ne peux pas vous les citer, mais aujourd'hui, il y a des producteurs bio qui, peut-être grâce à ce marché du terroir que nous faisons tous les ans, ont pu être sollicités par les élus des 49 communes pour participer au marché de leur commune.
Et vous sentez auprès des citoyens, des habitants des artistes Marquion, qu'il y a une envie aussi de faire autrement, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des mentalités?
Bien sûr, on s'aperçoit encore une fois donc, lors du marché du terroir, où les acheteurs demandent évidemment la publicité de chaque producteur. Et j'ai le retour de certaines personnes qui me disent aller chez ces exploitants pour se fournir en légumes, en fruits, etc. Donc ça commence à prendre de l'essor.
Quel projet alors là pour la communauté de communes aux artistes Marquion? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place dans les prochains mois, les prochaines années ou pas auprès de la ruralité, des agriculteurs?
On est très présent et on essaye de développer cette activité. On essaiera également d'avoir de plus en plus d'adhérents. On en parlera avec le GEC et puis surtout des jeunes qui sont intéressés par ces contrats. Parce qu'il n'y a pas que ce système de désherbage manuel au GEC, mais il y a également des formations pour des chauffeurs de tracteurs, des mécaniciens, etc. Donc c'est quand même des activités relativement larges dans le monde de l'agriculture et agroalimentaire.
Radio Scap Sensé, la puce à l'oreille.
On zigzague entre les gouttes, on ne fait que prendre la route.
du mauvais côté. J'ai oublié mon passeport, et toi les chats dehors, on est mal barré. Mais juste un mot, juste un geste, et on grimpe sur le toit de l'Everest. Nos deux corps qui s'en mêlent pour ne pas sortir du tunnel. Assez des voyages, assez des transports, je veux des lieux communs. J'en ai assez des voyages, je veux rentrer au port et cultiver ton jardin, et cultiver ton jardin, ton jardin. Je me réveillais à tes côtés, fini la vie d'aventurier, larguer les patins et t'enrouler plein. C'est pas le clean dans mes papiers, et mes semelles sont fatiguées. Mais j'aimerais bien qu'on arrête de courir, d'étaler, et qu'on se pose, regarder, se fixer ce qu'on a déjà parcouru et ce qui nous reste à perte de vue. Assez de voyages, des transports, je veux des lieux communs. J'en ai assez des voyages, je veux rentrer au port et cultiver ton jardin, ton jardin. Cultiver ton jardin, ton jardin.
C'était à l'instant l'artiste régional Usmar avec le titre « Cultiver ton jardin ». Aujourd'hui, on parle d'agriculture biologique à Arleux en Goële, entre Arras et Lens, avec les frères Delmotte que nous retrouvons pour terminer cette émission. Voici Stéphane et Benoît Delmotte, agriculteurs bio pour de la chicorée, mais ils nous parlent aussi de leurs autres cultures.
Nous, spécifiquement sur la ferme, on a comme culture de légumes des racines d'endives. L'endive, c'est une culture qui est semée puis récoltée sous forme de racines, conservée en frigo et l'année suivante forcée pour obtenir l'endive, le chicon tel qu'on connaît. Donc nous, on fait la partie culture dans les champs. On a de la betterave rouge et chicorée donc en légumes. Et cette année, on a commencé à faire de la pomme de terre en bio. On a d'autres objectifs après en légumes, éventuellement de la carotte ou de l'oignon au fil de l'évolution de la ferme. Associé à ça, on a des céréales. Pour les citer là brièvement, on a de l'avoine, du blé, du triticale, de l'épeautre selon les années, du maïs. Et spécificité de la bio, on a dans la rotation aussi de la luzerne. Alors la luzerne ne nous sert pas à grand chose en termes de récolte, mais elle nous permet de lutter contre certains adventices, notamment les vivaces comme les chardons, des choses comme ça. C'est une culture qui étouffe et qui en même temps apporte de l'azote dans le sol. Donc ça fait partie de l'autonomie dans le système d'agriculture biologique.
Vous êtes 100% en bio aujourd'hui ou non, c'est en cours?
On est 100% en bio, on a terminé la conversion là cette année.
Comment on fait? C'est pas évident quelquefois, même financièrement, d'avoir du coup une culture rentable, on va dire, en attendant que tout soit converti. Comment ça se passe finalement, cette période de transition?
C'est une très bonne question. En fait, Ça renvoie à une question d'actualité qui, normalement, on est censé avoir officiellement des aides à la conversion qui sont censées couvrir une partie du manque à gagner. Parce que dès lors qu'une terre entre en conversion, on est obligé de respecter scrupuleusement le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ce qui fait que, comme mon frère l'expliquait, en première année, on produit en bio, mais on vend au conventionnel. Donc on vend une récolte qui a été produite selon le cahier des charges, mais au prix du conventionnel, avec un rendement qui est inférieur néanmoins, parce qu'on n'a pas les méthodes du conventionnel qui permettent de produire beaucoup. Il se fait un manque à gagner sur les deux premières années. La politique agricole commune, normalement, donne des aides à la conversion. Pour l'instant, on attend encore le versement des aides de 2016. Voilà.
C'est un peu compliqué. Et quel rapport, quel lien avec d'autres agriculteurs? Parce que là, on voit d'autres champs autour avec des tracteurs qui, eux, ne sont pas forcément en bio.
C'est rarement conflictuel. Souvent, on suscite au mieux la curiosité des voisins, au pire le mépris, mais c'est rarement conflictuel. Dans la plupart des cas, les voisins sont quand même respectueux du travail qu'on fait, donc ils savent qu'il vaut mieux ne pas épandre dans notre champ. Enfin, il y a toujours des risques de contamination ou choses comme ça, mais bon, ils le savent, ils le font. Et bon, globalement, la cohabitation se passe pas trop mal. Là où ça devient un peu tendu, c'est plus sur un plan politique, parce que comme n'importe quelle corporation, l'agriculture est traversée par des courants politiques qui sont complètement différents, voire opposés.
Pourquoi aussi ils avaient fait ce choix finalement de cette conversion à 100%? C'était important pour vous au niveau de l'éthique ou autre, dans la continuité justement des mentalités qui changent? C'était quoi pour vous qui était important dans cette conversion?
Il y a un aspect très politique, dans le sens où historiquement l'agriculture biologique c'est quand même un mouvement, même si c'est pas le terme adapté, mais en tout cas les pionniers de la bio ont mis en place le cahier des charges de l'agriculture biologique, qui n'est pas une charte, hein, c'est un cahier des charges strict auquel on doit se conformer absolument. L'ont fait justement pour sortir d'un système conventionnel qui niait totalement l'existence du producteur et qui le reléguait à un échelon absolument subalterne, alors que c'est l'échelon essentiel. L'idée, c'était de se sortir d'un système dans lequel l'agriculteur-producteur était pieds et poings liés, était quasiment en intégration. Hein. Dans le conventionnel, on a des systèmes qui sont en intégration. Pas forcément sur de l'élevage, mais également dans les productions végétales, où on achète les semences au négoce ou à la coopérative. Avec les semences, on achète les produits phytosanitaires, les engrais, et puis après, à la fin, on va livrer le produit, mais on ne sait pas à quel prix on sera payé. Parce que c'est payé au prix d'un cours mondial qui est complètement déconnecté avec la réalité en tout cas de l'agriculture en France telle qu'on la connaît. Ça, c'est quelque chose qui est très idéalisé dans l'esprit des gens, mais qui est très loin de la réalité. Pour revenir à notre choix de faire de l'agriculture biologique, c'était cet aspect-là. Et puis l'aspect qui est aussi inhérent aux études et à notre profession, c'est qu'on ne voulait pas utiliser des produits qui sont nocifs pour la terre, l'environnement et les gens en général, quoi. Nous, en premier lieu, parce que sur la partie conventionnelle qu'on avait jusqu'alors, on a aussi été obligé de manipuler des produits dont on ne voulait plus sur la ferme.
C'était un reportage sur le désherbage bio chez les frères Delmotte, Stéphane et Benoît, agriculteurs bio à Arles-en-Goële, entre Arras et Lens. Et vous avez pu entendre aussi des membres du GEC 3A, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification agricole et agroalimentaire dans le Pas-de-Calais. On se retrouve bientôt dans La Puce à l'Oreille pour continuer à parler de votre région.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scap 107.